L'actualité ne prend pas de congé avec Jeff Fortin.
Boulevard 102.1.
Alors voilà, on est de retour à l'actualité ne prend pas congé avec Jeff Fortin sur les ondes de Boulevard 102.1, émission spéciale fin de campagne électorale, mais sûrement que l'arrêt, le moment que vous attendez le plus aujourd'hui n'est pas la fin de la campagne électorale, mais bien le match du CH ce soir, Centre Bell, quatrième match de la série face aux Capitals de Washington, le Canadien qui l'a emporté 6-3 à sa dernière rencontre. Et j'ai le plaisir d'aller rejoindre immédiatement en direct du Centre Bell le collègue Max Larouche. Max Larouche, comment ça va?
Hey, ça va bien, ça fait bien que je t'entends en direct du Centre Bell.
Ah, exactement, je suis très content de te parler. Comment est l'ambiance à Montréal? Parle-moi de ça.
Ouais, l'ambiance déjà dans les rues est incroyable à Montréal. Depuis qu'on est entré dans le Centre Bell, c'est sensationnel. Mais tu sais, juste avant, on est entré dans les dernières minutes, les portes s'ouvraient à 17h. Mais déjà à l'extérieur, c'est bondé de monde. Ça criait des olé olé, des go at go. C'est pas compliqué, tu sais, je suis arrivé dans les alentours du Centre Bell, aux alentours de 14h30, 15h. Déjà, ça commençait à grouiller un peu. On s'est allé prendre une petite bière dans le coin. Puis en sortant à peu près une heure plus tard, fait qu'il était aux alentours de 16h, le monde qui avait pris d'assaut les rues autour du Centre Bell, c'est vraiment quelque chose de sensationnel qui se passe.
Ah, c'est vraiment incroyable, la frénésie des séries. Les gens, est-ce qu'ils sont en pleine confiance avec justement ce quatrième match qui s'amorce, malgré le fait que Samuel Montembeault sera encore sur la touche?
Ben, je pense qu'avec le dernier match, la victoire du CH, ben, ça a vraiment donné confiance à tout le monde. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour les partisans du Canadien de ne pas être en confiance présentement. On a vu depuis le début de la série, même quand c'était 0-2 après les deux défaites à Washington, on a vu que le Canadien était capable de rivaliser avec les Capitals. Là, l'avantage de la glace, vraisemblablement, au match numéro 3, nous a donné l'avantage dont on avait besoin pour finalement gagner un match. Fait que je pense que pour ce soir, les partisans sont très, très confiants, oui.
Yes. Dirais-tu que l'escarmouche Josh Anderson, Tom Wilson, sur le banc des joueurs des Capitals, vendredi, va devenir un point tournant dans cette série-là?
Bien, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose vendredi. Je pense qu'on a vu, tu sais, effet Jack Eye ou pas, je pense qu'en effet, la présence de Jack Eye dans l'alignement a eu un certain impact, mais moi, je pense...
Ouais, quoique sur le deuxième but, il n'a pas eu l'air du meilleur défenseur de la Ligue nationale.
En effet, mais d'un autre côté, tu sais, on peut pas cacher que les joueurs jouaient plus gros vendredi. Cela dit, moi,
t'as entièrement raison.
On surestime un petit peu l'impact Jack Eye. Et ce que je pense qu'on sous-estime, c'est l'impact Centre Bell. Je pense que les gars jouent surtout plus gros parce qu'on a les partisans derrière nous. Tu sais qu'à chaque mise en échec que tu vas donner, les partisans vont quasiment se lever. 21 000 personnes qui se lèvent dans l'aréna. Je pense que l'impact d'un aréna, d'un Centre Bell rempli, ça a un impact qui est assez majeur aussi sur le jeu physique dans cette série-là.
Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. On parle avec Max Larouche, notre collègue en direct du Centre Bell pour le quatrième match du Canadien contre les Capitals. On entend des go-up-go derrière qui va s'amorcer dans un peu plus d'une heure. Max, le Canadien est-il trop dépendant encore de son premier trio ou la production qu'on a vue à l'effet, là, le but de New York en fin de match te donne un peu confiance?
Ben, tu sais, c'est sûr que le Canadien va toujours rester dépendant de son premier trio. Par contre, moi, le meilleur joueur à mes yeux dans cette série-là, puis tu as glissé son nom il y a quelques instants, c'est Josh Anderson.
Ah,
moi,
clairement.
Il fait un travail formidable. L'impact qu'il amène dans une game, ça va au-delà des buts marqués. Quand il est sur la glace, les joueurs adverses qui n'ont pas le choix de se lever à la tête, ils essayent d'aller frapper tout ce qui bouge, ils amènent une intensité dans le match. Fait. Oui, d'un côté, c'est sûr qu'offensivement, le Canadien va toujours dépendre jusqu'à preuve du contraire de son premier trio. Par contre, on voit que de temps en temps, des gars comme Dvorak, des gars comme justement Anderson, un Gallagher, ça peut aller marquer des gros buts. Maintenant, j'ai hâte de voir un demi-dov un peu plus sortir de sa coquille. Ça fait deux matchs qu'on le voit un petit peu plus, justement, après un premier match plus difficile. Moi, d'après moi, demi-dov, là, si vous avez un petit deux piastres à mettre, je m'attends peut-être à un gros but de jeune Demidov ce soir.
Chose certaine, le Centre Bell va exploser si Demidov marque. Est-ce que ce sera Logan Thompson devant le filet des Capitals? On n'a pas la confirmation encore, je crois.
Non, mais même les deux équipes jouent à la cachette un petit peu parce que même le Canadien n'a pas officiellement mentionné que Montembeault n'allait pas être devant le filet ce soir pendant que les go-at-go prennent d'assaut les corridors.
C'est écœurant.
Mais même le Canadien a dit que Montembeault était jusqu'à l'avant-match pas si simplement une option. Mais du côté des Capitals, moi, j'ai l'impression qu'on va voir Thompson devant le filet. Mais tu sais comment c'est en série, c'est tellement des games mentales de on ne dit pas jusqu'à la dernière seconde qui est blessé, qui n'est pas blessé, qui est blessé à quel endroit. Puis, fait que j'ai très hâte de voir. Je pense qu'on ne saura pas qui est devant le filet jusqu'au début du match.
Oui, en effet. Donc, ça va être la période d'échauffement qui va être très intéressante pour ça. Tu m'enverras un petit texto, si tu le veux bien, pour que je garde nos auditeurs à jour. Hey Max, tant qu'à t'avoir, je veux te parler des autres séries. Les Jets de Winnipeg qui perdent 5-1 cet après-midi face aux Blues. Connor Hellebuyck qui se fait sortir encore une fois du filet. Ça n'augure rien de bon pour Winnipeg dans cette première ronde. C'est maintenant 2-2 dans la série.
Année après année, les Jets de Winnipeg, c'est la même affaire. C'est une grosse saison régulière, puis après ça, ça choke en série. Puis c'est encore plus vrai dans le cas de Connor Hellebuyck. S'écrase en série, puis c'est ça qu'on est en train de voir présentement. Son gardien numéro un, le meilleur gardien, tu sais, en saison régulière, moi je le dis toujours, en saison régulière, là, j'ai un gardien à choisir dans mon équipe. Le meilleur gardien de l'LNH, pour moi, c'est Connor Hellebuyck.
C'est clair.
Mais en série, ça change complètement. En série, tu me demandes quel gardien je veux dans mon net. Je suis pas sûr que c'est Connor Hellebuyck, puis il est en train de montrer pourquoi présentement aussi. Les Blues ont été une des très, très bonnes équipes de la LNH depuis le tournoi des Quatre Nations. Mm-hmm. Fait que ils sont en train de nous montrer qu'on doit vraiment pas les prendre pour battus.
Ok, non. Les Sénateurs ont sauvé leur pas avec un but en prolongation de Jake Sanderson. Est-ce que c'est assez pour faire trembler les Leafs dans cette première ronde?
Je pense pas, parce que les Leafs nous ont montré qu'ils étaient assez en contrôle. Puis autant les Sénateurs n'auraient pas mérité un balayage, autant je pense que les Leafs vont être capables de terminer le travail, là, si c'est pas au prochain match, ce sera au sixième. Mais tu sais, à 3-1, je pense que les Leafs n'ont aucune raison de paniquer avec la façon dont on joue depuis le match numéro 1.
Non, en effet, je suis pas mal d'accord avec toi. Je m'attends à ce que les Leafs ferment les livres à domicile cette semaine. As-tu trippé comme moi de voir Gabriel Landeskog marquer son premier but en plus de 1000 jours dans la Ligue nationale?
Quelle belle histoire, Gabe Landeskog qui revient après 3 ans sans jouer. Tu sais, des belles histoires comme ça, il y en a une fois de temps en temps, là, mais qui marque ce but-là à domicile pour l'Avalanche, d'être capable de revenir aussi. Tu sais, revenir, c'est une chose, mais de revenir en série à un niveau où tu es capable de marquer un
tellement
coup de but pour ton équipe, c'est une autre chose complètement. Puis tellement content pour Gabe Landeskog, ses coéquipiers avaient tellement l'air heureux. Fait que non, moi, une belle histoire du côté du Colorado.
Yes, et en terminant, prédiction pour le match du CH ce soir et prédiction pour le match Kings Oilers, qui va gagner selon toi?
Ben moi, j'y vais un peu avec la psychologie inversée, là, pour pas être trop déçu. Je dis 5-2 Capitals ce soir, en espérant me tromper.
J'adore.
Puis du côté d'Edmonton, là, les Oilers n'ont pas le choix. La victoire écrasante de 6-1 des Oilers.
Excellent. J'y vais avec toi. Victoire des Caps, victoire des Oilers, mais je pense que ça va être des matchs plus serrés. Je mets 4-3 Washington et 5-4 pour les Oilers. Ils se marquent des buts à la tonne dans cette série-là. Max Larouche, profite de ta soirée. Et du fun. Crie des go, abs go. Faut que tu manques de voix demain matin en faisant tes nouvelles à Rage Against ce matin.
Parfait, go,
let's
go!
Excellent! Salut Max Larouche, je suis super content de t'avoir parlé aujourd'hui. Salut! Alors, c'était le collègue Max Larouche qui était avec nous, justement, en direct du Sandbell. Quel trip il va vivre, ce Max Larouche, à l'heure actuelle, avec les partisans du Canadien. L'ambiance va être incroyable. C'est 18h30 ce soir, évidemment, sur les ondes de TVA Sports et de CBC. Manquez pas ce match-là, ça va être une pièce d'anthologie. C'est maintenant l'heure de faire une courte pause publicitaire. Et au retour de la pause, nous aurons avec nous, au téléphone, la ministre des Relations internationales et des affaires étrangères pour le Parti libéral du Canada, nul autre que Mme Mélanie Joly. Restez les nôtres, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, émission spéciale, fin de campagne électorale.
Chinerie lourde, si tu possèdes...
On est de retour sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est exactement 17h31. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. L'actualité ne prend pas congé. Émission spéciale fin de campagne électorale. Et justement, au bout du fil, j'ai avec moi la ministre des Affaires étrangères et du Développement international pour le Parti libéral du Canada, Mme Mélanie Joly. Mme Joly, comment allez-vous?
Salut, Jean-François. Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Merci à vous d'être disponible en ce dimanche soir de fin de campagne électorale. Comment est l'énergie en cette fin de campagne? Est-ce qu'on commence à avoir hâte au vote demain?
Oui, c'est sûr qu'on a hâte au vote demain. Mais on a une bonne énergie. J'arrive tantôt, je suis allée voir d'autres circonscriptions. Moi, je suis dans la région de Montréal. Mm-hmm. J'étais sur la rive sud. Puis j'étais vendredi aussi à Val-d'Or, en Abitibi. Je suis allée plus tôt durant la campagne dans la région de Québec. Puis, je vois beaucoup de gens motivés. Il y a beaucoup de gens qui ont voté aussi par anticipation. Puis, il y a beaucoup de gens qui me parlent du président Trump. Ça, c'est clair.
Exactement. C'est pas mal les sujets de la campagne. Région de Québec parlant, Beauport-Limoilou, course à trois. Vous avez une grosse pointure du côté des libéraux avec Steve Lavoie, l'ancien PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Comment on entrevoit cette bataille à trois, justement, au niveau du Parti libéral?
Bien, on sait qu'on a un bon candidat, justement, avec Steve. Steve Lavoie, c'est une personne très respectée qui comprend les besoins des entrepreneurs de Québec, qui comprend aussi le fait que quand le président Trump nous impose des tarifs, bien, ultimement, ce sont des emplois qui sont en jeu. Et ultimement, il amène beaucoup de compétences avec Jean-Yves Duclos aussi, avec Joël Lightbaum à la table pour bien représenter Québec. Parce qu'ultimement, là, Jean-François, la question que tout le monde se pose, la question de l'urne, c'est qui va être le premier ministre pour affronter le président Trump? Qui va être capable de protéger nos jobs? Qui va être capable aussi de vraiment pousser contre toutes ces menaces d'annexion de la part de la Maison-Blanche? Donc, c'est pour ça que c'est important demain d'aller voter. C'est important de voter pour Mark Carney et l'équipe libérale.
Justement, vous parlez du président Trump, puis je me posais la question parce que vous avez été à plusieurs tables de négociation avec l'administration Trump depuis le début, justement, des tarifs douaniers. Comment ça se passe à cette table-là? Est-ce que les Américains sont un peu comme Donald Trump, c'est-à-dire très directifs, ou il y a un discours très cordial qui se passe derrière les portes closes?
Il y a un peu un mélange des deux, je dirais. Il y a juste une personne qui décide à Washington, puis c'est le président Trump. Mm-hmm. Toute son organisation, toutes les personnes autour de lui valsent autour de lui pour être capable de prédire, de prévoir comment il va réagir. Et il y a beaucoup, beaucoup de compétition entre ses différents secrétaires puis ses différents représentants.
À savoir qui va être le préféré de Donald Trump ou le plus proche de lui?
Exactement. Puis ce qui arrive, c'est que le président Trump, il y a juste une chose qu'il respecte, c'est la force. C'est pour ça qu'il nous faut un mandat fort, c'est pour ça qu'il nous faut aussi un mandat majoritaire, parce que c'est comme ça qu'on va être capable de négocier avec lui. C'est pas en faisant, en s'affaiblissant entre nous. Au contraire, lui, là, son objectif, et ça va être l'objectif aussi après les élections, ça va être de négocier une nouvelle entente au niveau du commerce international, puis de la sécurité avec les Américains. Et ça sera pas une tâche facile, là. Mais donc, il faut avoir du monde fort, du monde qui sont capables de se tenir debout, du monde qui sont capables de prendre la pression, puis certainement la pression psychologique provenant de l'équipe Trump, parce que certainement, ça va être une grosse bataille par la suite.
Vous parlez justement de ne pas affaiblir le Canada, et je lisais cette fin de semaine le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui persiste et signe en qualifiant le Canada de pays artificiel. Comment vous trouvez ces commentaires-là, et quelle est votre réplique, justement, à l'endroit du chef du Bloc québécois?
Non, moi, je pense que le chef du Bloc québécois sous-estime ce qui se passe présentement, non seulement avec les États-Unis, mais aussi dans le monde. Ça démontre une naïveté immense alors que les menaces sont vraiment réelles. Et ça démontre à quel point c'est voter pour le Bloc, c'est s'affaiblir. Voter pour le Bloc, c'est affaiblir le Québec. Voter pour les libéraux, c'est voter pour un gouvernement qui va se tenir debout, qui va vraiment défendre les intérêts des Québécois, mais aussi croire au fait que le Canada est un pays qui existe, qui est un vrai pays et qui est sincèrement le meilleur pays au monde. Moi, j'ai fait 75 pays comme ministre des Affaires étrangères. Ouais. On n'est certainement pas parfait, Jean-François. Mais quand on se compare, là, on voit à quel point on est un pays extraordinaire. Puis au Québec, vous pouvez compter sur Steve, sur Jean-Yves, sur Joël, sur moi, sur Stephen Guilbeault, sur François-Philippe, sur toute la gang qui font partie du caucus du Québec pour être capable de défendre notre langue, nos jobs, notre culture.
Ça, c'est clair que je suis d'accord avec vous que le Canada est un super beau pays. Pour rappel, on discute de la fin de la campagne électorale avec Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères et du Développement international pour le Parti libéral du Canada. Madame Joly, il y a une critique que j'entends du côté des libéraux, de nos auditeurs, c'est le déficit au niveau du budget. On s'attendait à ce que Mark Carney présente un budget avec moins de déficits. Il y a encore des déficits importants. Pourquoi ces déficits-là existent encore dans votre cadre financier?
Bien, il y a différentes choses. Premièrement, tous les partis arrivent avec un enjeu, avec une présence de de déficit. Ça, c'est juste la réalité. Mais en même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive avec une approche, je pense, qui est très saine des finances publiques. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on devrait, au cours des 4 prochaines années, arriver à vraiment équilibrer le budget au niveau des dépenses d'opération. Mais en même temps, on doit financer, on doit investir dans nos infrastructures, puis on doit investir dans notre défense, donc dans nos forces armées canadiennes. Et ça, c'est pas les mêmes types de dépenses que les dépenses courantes qu'on voit à Ottawa. Donc, on doit être capable de faire les deux.
D'où votre, le budget opérationnel, budget investissement.
Exactement. Exactement. Donc, oui, on doit avoir des coupures. Oui, dans les opérations, dans les choses, la paperasse, les choses qui, comment je peux dire, les processus qui sont trop longs, le fait que tout ce qui crée de la frustration là, auprès du public, auprès des citoyens, puis j'en entends parler, là, puis je suis d'accord qu'on doit être capable de couper dans cette problématique, dans le fond, aborder cette problématique-là, puis couper dans cette paperasse-là. Mais en même temps, c'est pas vrai qu'on va le faire au détriment de nos grands projets d'infrastructure qui vont faire travailler notre monde parce qu'on est en guerre tarifaire. C'est pas vrai qu'on va le faire au détriment de nos forces armées canadiennes alors qu'on a des menaces d'annexion de la part des Américains. Mais plus que ça, il y a la Chine et la Russie qui travaillent ensemble à notre détriment et qui sont au final des rivaux, des adversaires, des menaces contre notre propre pays et contre l'Occident. Là. On est dans un monde, j'en pense, beaucoup plus dangereux et complexe qu'il y a à peine 4 ans. Là. Donc, c'est pour ça que nous, il faut investir aussi dans notre base à Valcartier, dans notre base à Bagotville, dans nos infrastructures militaires, partout à travers le territoire québécois et canadien.
Oui, devant le fait, là, justement, là, que notre allié, les États-Unis, n'est plus considéré comme un allié. Madame Joly, je sais que le temps file pour vous. Je termine avec sûrement la question la plus importante de la soirée ce soir, avant la question de l'urne demain. Et d'ailleurs, on invite tous les gens à aller voter. Les bureaux de scrutin sont ouverts entre 9h30 et 21h30 au Québec. Est-ce que le Canadien de Montréal va gagner ce soir, Madame Joly?
Absolument. Moi, là, j'y crois. Ils ont tellement bien joué la dernière fois. Ils ont surpris tout le monde. Puis c'est une question de gérer les émotions, comme j'ai entendu certains joueurs dire. Comme quoi, Martin Saint-Louis était clair là-dessus. Ben, je suis convaincue qu'ils vont être capables de bien gérer leurs émotions puis de nous faire gagner. Puis je sais que les Québécois, ils vont écouter le match ce soir. Moi, je vais écouter le match, en tout cas. Puis en même temps, on va aller voter demain. Puis c'est important qu'on ait un gouvernement libéral majoritaire.
Avec quel petit breuvage allez écouter le match? Moi, j'écoute ça avec une petite IPA, vous, de votre côté?
Une petite tisane à la menthe.
Une petite tisane à la menthe?
Parce que ça fait 35 jours que je suis en campagne.
Sinon, vous ne verrez pas à la fin du match, c'est ça que vous êtes en train de me dire?
Non. On va écouter le match au complet.
Hey, cool. Madame Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, merci énormément pour votre temps aujourd'hui. Au plaisir de se reparler après l'élection. Quand vous passez en capitale nationale, n'hésitez pas à venir nous voir en studio ici à Boulevard. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir.
Absolument. Merci Jean-François. Cool. Bye tout le monde.
Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Bye. Alors, c'était la ministre du Développement international et justement des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui était avec nous spécialement pour cette émission de fin de campagne électorale sur les ondes de Boulevard 102. Restez des nôtres, on va aller avec Fortune Cookie Club et l'excellente reprise Itzal. Et par la suite, on fait la place à tous les partis politiques importants ici à Québec en cette fin de campagne électorale. Et c'est pourquoi le député du Parti conservateur du Canada, Gérard Deltel, va venir s'installer en studio avec nous. Vous écoutez l'émission spéciale « L'actualité ne prend pas congé » sur les ondes de Boulevard 102.1, émission spéciale fin de campagne électorale.
Jeff Fortin.
Boulevard 102.1.
Alors, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. Émission Actualité ne prend pas de congé spécial du dimanche soir. C'est la première fois qu'on en fait un dimanche soir. D'habitude, l'actualité ne prend pas congé dans les jours fériés. Pour rappel, c'est demain le jour du vote. Très important d'aller exercer votre droit de vote demain. Les bureaux de scrutin sont ouverts de 9h30 demain matin à 21h30. Donc, déjà 7,3 millions de Canadiens qui ont usé leur droit de vote lors du vote par anticipation. Alors, s'il vous plaît, allez voter. Peu importe pour pour quel parti vous allez voter. C'est important. Il y a plein de pays qui n'ont pas ce luxe-là d'avoir un droit de vote. Donc, utilisez-le, profitez-en. C'est très important pour notre démocratie. Et justement, pour tous les résultats électoraux, demain soir, émission spéciale de l'actualité ne prend pas congé. Émission spéciale Résultats électoraux à compter de 20h. Je serai accompagné par Farnel Morisset, un petit nouveau sur les ondes de Boulevard 102.1, Lambert Drainville qui sera avec nous également, Red sera là. On aura aussi Max Larouche qui va être là pour les résultats. Alex Laramé sera là pour les résultats également dans la grande région de Montréal parce qu'on va être diffusé à Québec sur les ondes de Boulevard 102.1 et également à Montréal sur les ondes du 99.5 Montréal. J'ai avec moi le plaisir et le bonheur d'avoir en studio le député sortant du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Louis-Saint-Laurent, et là, M. Deltel, il faut que je réussisse à bien le dire, Akwarenrak.
Bravo, félicitations.
Merci, qui est en fin de campagne électorale, justement. Gérard Deltel, merci de vous être déplacé en studio ce soir.
Hey, c'est moi qui vous remercie. En fait, on est vraiment à quelques pieds à peine de la circonscription de Louis-Saint-Laurent.
Vraiment?
Parce que auparavant, c'était dans la circonscription avec le nouveau découpage Pierre Bertrand Est et Ouest. Et puis, une zone dans la portion Est, celle de Pierre Paulus. Vous êtes en bonne main.
Oui, exactement. Oui, Pierre Paulus, qui est le député là, de ma circonscription Charlebourg-Haut de Saint-Charles depuis longtemps. J'ai connu à mes années au patron Charlebourg, un homme très généreux là, pour le domaine communautaire. Okay, oui. Ouais. Êtes-vous confiant pour demain, malgré le fait que présentement, le Parti conservateur est encore un peu retard dans les sondages?
On est toujours confiant, puis on ne prend jamais rien pour acquis. Alors, malheur à celui qui dit « Oui, c'est fait, puis on va gagner. » Puis wow, c'est pas de même, ça marche. Il faut d'abord voter, puis après ça, faites-vous élire, puis après ça, on s'en parlera. Alors, ça va bien, on est content d'avoir d'avoir sillonné, évidemment, dans mon cas, la circonscription, mais partout au Québec, partout au Canada, nos candidats ont travaillé très fort. Puis là, maintenant, c'est les gens qui vont décider comment ça se passe.
Est-ce que des exemples récents dans le monde politique vous encouragent par rapport au sondage? Et là, je pense à Donald Trump aux États-Unis, lors de la dernière élection présidentielle, où c'était somme toute très serré et finalement, ça a été un raz-de-marée Trump contre Kamala Harris. Et je vais penser ici à Québec, avec l'élection de Bruno Marchand comme maire de Québec. Personne ne voyait ça arriver dans les sondages. Est-ce que ça donne un élan de confiance pour le Parti conservateur?
En fait, il faut toujours faire attention parce qu'historiquement parlant, les gens qui votent conservateurs sont toujours un peu sous-évalués dans les sondages. Et là, c'est pas une question de dire « Oh, les médias! » Non, c'est pas ça, là. C'est juste que, mathématiquement parlant, les gens qui votent conservateurs sont toujours un peu plus discrets et il y a beaucoup cette année qu'on voit des jeunes qui sont difficiles à sonder. Non pas qu'ils veulent rien savoir, c'est juste que pour les rejoindre, pour les sondeurs, c'est pas facile. Tous les sondeurs sérieux vous diront que c'est difficile d'aller rejoindre les jeunes actuellement, d'autant plus que maintenant, tout le monde a son cellulaire puis tout ça, alors il n'y a plus de téléphone vraiment de terre, comme on disait. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours une petite prime à l'urne, et ce qu'on sent dans la tendance actuellement, c'est que ça se resserre beaucoup plus qu'on le pense. Alors, pour ça qu'il n'y a strictement rien de joué, là, puis malheur à celui qui décide tout de suite comment ça va se passer. Puis c'est vrai dans nos circonscriptions, si vous vous regardez à Canada 338, là, me dire, à ce moment-là, c'est un petit peu pharaonique comme résultat que je risque d'avoir demain, mais j'ai jamais pris ça pour acquis, jamais. Et c'est pour ça qu'il y a des dizaines et des dizaines de militants qui travaillent dans notre équipe pour que demain, on puisse sortir le vote, comme on dit.
Oui, oui.
Alors, ça se peut que vous recevez des téléphones. C'est vrai chez nous, c'est vrai dans d'autres partis. Mais c'est ça, la démocratie.
Oui, c'est ça. Puis c'est la game de tous les partis politiques. Dans la région de la capitale nationale, quand même de fortes chances pour les conservateurs de s'établir dans Beauport-Limoilou avec Hugo Langlois et dans Montmorency-Charlevoix avec Gabriel Hardy.
Absolument. Et ça, tout le monde le reconnaît. Faut comprendre aussi que c'est des luttes qui sont serrées et c'est très bien ainsi. Lutte serrée, ça veut dire que ça fait de très bons débats et de très bonnes approches. Moi, je peux vous dire que pour avoir fait campagne une demi-journée dans Beauport-Limoilou avec Hugo Langlois, c'était assez impressionnant. Là. Hugo, disons que je n'ai pas eu besoin de revenir quatre fois. Là. Il connaît la game un petit peu. Et c'est rare de voir un talent politique aussi naturel que M. Langlois. Il ne faut pas se cacher non plus. Puis, je sais de quoi je parle. J'ai été journaliste pendant 20 ans avant que je fasse de la politique. Et que ça fait 16 ans et demi que je suis engagé en politique active. Et c'est clair que quand vous avez fait un petit peu de télé, de médias, c'est sûr que ça ne nuit pas. Et dans le cas présent, Hugo, son père a été maire pendant 17 ans à Beauport et un maire qui a laissé une très belle trace et un très bon souvenir. Alors, c'est sûr que ça ne nuit pas non plus. Cela dit, si on ne vote pas sur un nom, on vote sur une personne. Et il y a des gens de qualité dans tous les partis qui se présentent, mais on est confiant que les gens vont voter pour nous cette fois.
Vous étiez encore dans les médias dans la fameuse guerre des fusions municipales, alors que Jean-Paul Lallier était justement l'adversaire et de Jacques Langlois et de Ralph Mercier et de la mairesse Boucher.
Absolument. Et puis, la grande, ce qu'on oublie beaucoup, c'est que la grande réalisation de Jean-Paul Lallier, c'est évidemment d'avoir fait les fusions municipales à travers la province. Parce que c'était lui qui était... M. Lallier était une personnalité très forte, qui aurait très bien pu être premier ministre du Canada ou du Québec.
Dans son
cas, je pense qu'il aurait peut-être pas imaginé être premier ministre du Canada pour des raisons fondamentales. C'était un fier souverainiste.
Oui, en effet.
Et c'est pas un défaut, c'est pas ma gang, mais c'est pas mes amis. Mais
exactement.
M. Lallier était M. Lallier. Et il aurait, c'est lui qui a été le vrai leader provincial des fusions municipales. Et on sait que ça a amené de grands débats. Mais on sait aussi qu'en bout de ligne, tous ceux qui étaient contre sont finalement rangés avec la fusion municipale. Et on se souviendra aussi que Mme Boucher, qui était la grande personne qui était contre les fusions, une fois le mandat fait, une fois les 4 ans faits de la ville fusionnée, elle a été élue, on s'en souviendra, avec un raz-de-marée, alors qu'elle avait fait campagne sans pancarte. C'était assez exceptionnel.
Oui, elle était assez exceptionnelle, la mairesse Boucher. Partie sûrement un peu trop tôt, là, malheureusement. Là. Pas de doute là-dessus.
Oh oui.
Pourquoi le Parti conservateur réussit à bien s'établir ici en capitale nationale, mais que c'est plus difficile, exemple, dans la grande région de Montréal? Qu'est-ce qui explique ça?
C'est ça. Moi, c'est ce que j'appelle le mystère Montréal. Comment ça se fait que Montréal, ils sont pas capables de comprendre qu'on est des bonnes personnes. Non, ça, évidemment, ça, je caricature un peu brutalement. Mais je pense que Québec, il ne faut jamais prendre Québec pour acquis. Hein. Souvenons-nous que Québec a toujours changé de couleur, a toujours eu les 3 couleurs. Au moment où on se parle au provincial, vous avez un député du PQ, 2 députés de Québec solidaire, puis 5 députés de la CAQ. Actuellement, et ça va changer, en fait, nous le souhaitons évidemment que tout le monde soit conservateur partout, bien entendu, mais vous avez actuellement des députés du Bloc québécois, des députés libéraux et des députés conservateurs. Québec n'est jamais ne doit jamais être prise pour acquis. C'est ça qui est intéressant avec la dynamique de Québec. Et même pour vous dire, la seule fois où Québec a parlé d'une seule voix au fédéral, c'était pour le NPD.
C'est vrai, dans la fameuse vague orange.
7 sur 7 en 2011.
Ben oui, vous m'aimez.
Fait que moi, quand les gens nous disent « Hey, vous autres, à Québec, c'est facile, vous êtes conservateurs. » Non, un instant, là. Québec ne doit jamais être pris pour acquis. Et c'est très bien ainsi.
Est-ce qu'on est plus critique en politique à Québec? Il y a plus de radio parlée. Moi, je sens que les gens sont vraiment intéressés à la politique.
Ah oui.
C'est-tu une... je vais le dire comme ça, c'est-tu une conséquence, justement, du fait que Québec n'est jamais prise pour acquis?
D'aucuns pourraient dire que c'est l'œuf et la poule. Est-ce que les radios parlées sont populaires parce que, justement, il y a des gens à Québec qui sont plus informés et qui participent plus au débat? Je ne vais pas dire plus informés parce qu'il faut être quand même très honnête là-dedans, mais qui aiment défendre des idées, qui aiment débattre, qui aiment aussi parfois changer d'idée. On appelle ça l'évolution. Et c'est correct ainsi. C'est ça la richesse politique de Québec, de ne jamais rien prendre pour acquis. Et au plan municipal, on sait que quand on aime quelqu'un, on l'aime solide. Tu sais, M. Lallier, ça a été élu 4 fois. M. Labeaume a été également. Et c'est des fortes personnalité aussi qu'on a à Québec.
Exactement. Pour rappel, on discute présentement avec Gérard Deltel, qui est présent en studio avec nous, député sortant du Parti conservateur de la circonscription de Louis-Saint-Laurent à Coirouenrac. Alors, on parle de la fin de campagne électorale. Est-ce que les élections jouent trop dans le Grand Toronto à l'heure actuelle? Est-ce que le Grand Toronto prend trop de place au Canada par rapport justement au reste du pays?
Écoutez, c'est 10 millions sur 40 millions.
Naturellement,
il y a un intérêt qui est porté là-dessus, mais il n'y a pas... moi, je peux vous dire une chose. Actuellement, notre chef se promène, M. Poilievre, fait un marathon de rassemblement dans le sud de l'Ontario. Mm-hmm. Puis là, c'est à coup de 5 000 à chaque fois, là, à Oakville, que ce soit à Peterborough, je viens de l'Étoile.
Donc, Michel, vous sentez un élan?
Ben, c'est clair que pas pour rien que quand on a gagné une partielle de façon assez spectaculaire en plein cœur du centre-ville de Toronto, de ce qu'on appelle vraiment le hardcore de Toronto, là, bang! On a fait un gain là. Et je voyais encore récemment notre collègue, M. Small, qui est le député de la place, ça va bien, là. Ça va très bien, ces affaires. Alors, et on voit aussi, d'un océan à l'autre, là, M. Poilievre a tenu des rassemblements à coût de 4-5 000 partout, là, mais à chaque fois, là, grosse affaire. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a une vague de fond qui est là. Mais cette vague de fond-là doit se manifester aussi par des votes, et c'est pour ça qu'il faut aller voter. Et bien des gens pour qui ça va être la première fois d'aller voter, allez-y! C'est votre avenir qui se décide. Et nous, on pense que sérieusement et objectivement, on a le meilleur plan pour redresser la situation. C'est pas vrai que ce qui s'est fait pendant 10 ans de temps qui a affaibli l'économie canadienne va être meilleur avec la même gang qui a fait ça pendant 10 ans de temps. Est-ce qu'on est prêt à payer un 4 ans encore avec les libéraux ou au contraire, on fait un vrai changement, un changement conservateur avec Pierre Poilievre puis l'équipe des conservateurs ici à Québec pour vraiment changer les choses? Les gens, les jeunes personnes, allez voter demain. Allez voter.
justement, parlons-en. Pourquoi on voterait pour le Parti conservateur du Canada?
Parce qu'on a les meilleures approches qui se veulent responsables, réalistes et pragmatiques. C'est pas dogmatique, notre affaire. Oui, on a un partage tout à fait intelligent de baisse d'impôts et de taxes et de coupures, et en même temps d'investissements majeurs. Et ça, c'est la trilogie qui est importante, et c'est la balance qui doit être faite. Et nous, on veut baisser les impôts de 15 % pour la première braquette. On veut baisser la taxe et annuler la taxe pour l'achat d'une première maison. On veut inciter les villes à construire davantage en payant la moitié des frais qui sont des frais d'aménagement qui coûtent une fortune pour des nouvelles maisons et pour des nouvelles constructions. On veut investir davantage aussi dans la défense, quand on sait qu'ici, dans la région de Québec, on a des entreprises qui travaillent directement là-dedans. On veut également permettre aux gens d'avoir plus d'argent dans leur poche et surtout de faire le vrai développement nécessaire de notre plein potentiel de richesse naturelle et d'énergie. Pendant 10 ans de temps, on a mis des bâtons dans les roues là-dedans. Nous, on veut enlever les bâtons pour accélérer les investissements qui vont créer de la richesse, de la vraie bonne richesse, parce que ce sont nos richesses naturelles qui vont améliorer la situation partout à travers le monde. Si on vendait le gaz naturel canadien à l'Inde, l'Inde serait capable de réduire de 2,5 millions de tonnes leur pollution. Ça, là, c'est trois fois plus que ce que nous...
C'est du gagnant-gagnant, là.
C'est gagnant pour la planète, puis c'est gagnant pour les industries canadiennes, c'est pas gagnant pour l'Inde. Il faut développer notre potentiel de richesse naturelle et d'énergie, et nous, c'est ce qu'on veut faire.
Justement, on parlait avec la ministre Maïté Blanchette-Vizina la semaine dernière, après son projet de loi, jeudi matin dernier, après son projet de loi sur l'industrie forestière, et je lui ai posé la question, un projet comme GNL Québec, est-ce que c'est quelque chose que la CAQ envisagerait de faire pour diversifier l'économie? Elle n'a pas fermé la porte, donc sentez-vous qu'il y a un courant positif envers ce type de projet-là?
Oui, il y a un courant positif parce qu'il y a consensus d'un océan à l'autre, et particulièrement ici au Québec, d'arrêter notre dépendance aux États-Unis. Bien, si on veut arrêter notre dépendance aux États-Unis, il faut créer notre autonomie en matière de ressources naturelles et d'énergie. Et nous, ce qu'on veut, c'est vous savez, les grands projets comme ça, c'est pas le gouvernement qui les fait, c'est les entreprises privées qui voient une possibilité et tout se fait selon les cadres législatifs pour être sûr que ça se fasse correctement. Mais la pire chose à faire, c'est un gouvernement qui s'investit et qui s'introduit dans le processus des ressources naturelles. Bon, vous donner un exemple qui est absolument
abrutissant.
C'est l'exemple de Trans Mountain, un pipeline dans l'Ouest canadien qui était sous l'égide d'une entreprise de Houston, au Texas. Tout était en marche, tout allait bien. Du jour au lendemain, le gouvernement Trudeau achète ce pipeline-là de 4,2 milliards de dollars. C'est deux fois le prix qui était évalué. Et après ça, on fait les travaux d'aménagement de construction. Ça devait coûter 7 milliards. On est rendu à presque 35 milliards. Presque 5 fois plus cher que prévu.
Donc, on est mieux de laisser le privé, justement, développer ce type de projet-là et être là pour les accompagner.
Et tel que le disait un article de la presse de Radio-Canada en 2019, celui qui a donné l'idée au gouvernement libéral d'acheter un pipeline, ce qui est une absurdité totale, d'autant plus qu'on se rend compte que ça a coûté quasiment 40 milliards de dollars au Trésor public, bien, c'est le député libéral de Louis Hébert. J'ai beaucoup de respect pour M. Lightbound, mais je vais vous dire une chose, sa décision, sa proposition n'était pas bonne, mais c'est son gouvernement qui l'a appliqué aussi. C'est pour ça que je vous dis, les ressources naturelles, il faut que ce soit développé par l'initiative de l'entreprise privée, mais il faut que ce soit calibré de façon intelligente et responsable par les conservateurs.
Par le gouvernement, pardon.
Exactement. Les conservateurs.
Vous avez le droit de vous, de vous projeter dans le futur, si vous voulez. Vous avez 60 ans, M. Deltel, oui. Ça fait une vingtaine d'années que vous faites de la politique active. C'est-tu votre dernier mandat ou vous avez encore la piqûre?
Ben, demandez ça aux gens de Louis-Saint-Laurent et à Wanrac, ils vont vous le dire dans 4 ans.
Ouais, supposons que vous êtes élu, ce que je crois qui va arriver dans votre circonscription.
Ouais,
je sais qu'il n'y a rien de sûr, mais bon, laissez-moi jouer au Gérard Destrade pour 2 secondes. Est-ce que vous pensez avoir encore cette piqûre-là dans 4 ans?
Ah, je souhaite l'avoir. Vous savez, on ne se présente pas pour un seul mandat. On veut accomplir le mandat, mais il faut toujours penser en fonction de 2 mandats. C'est toujours la question qu'on se pose, au même titre que je me la suis posée il y a 3 ans et demi, puis avant, puis tout ça. Tu fais ça pour au moins, tu veux t'engager pour là, mais après ça, pour en faire un peu plus. mais c'est toujours 6 mois avant qu'on décide, bien, go, no go. Alors, si d'aventure, je suis honoré de la confiance pour la 7e fois des gens de Louis-Saint-Laurent, qui a Rouyn-Noranda, qui est auparavant Chauveau provincial, j'en serais très honoré, puis tant mieux. Je serais très heureux de continuer à faire leur travail. Et après ça, on verra bien, mais oui, ça me tente encore.
Cool. J'ai une petite dernière question plus personnelle pour vous. Vous avez été dans les médias durant longtemps. Oui. Avez-vous déjà animé des soirées électorales?
Animé, non.
Non.
Participer à toutes les élections, ça, c'est clair. Je me souviens quand M. Landry, l'élection de 2003, M. Charest avait gagné, M. Landry avait perdu. Et là, M. Landry, il avait rentré dans la salle. Et puis, bon, c'était pas là où j'étais, il était à Montréal. Mais comme j'étais un commentateur, ben, un journaliste sur place, alors disons que M. Landry avait pris beaucoup de temps à aller sur le stage, sur comme scène. On dit. Alors, j'ai parlé quasiment 6 minutes de temps non-stop sur la biographie de Bernard Landry. Jusqu'à ce que m'amener dans mes oreilles résonne. OK, c'est bon, Gérard, c'est correct, là.
Puis vous étiez capable de le faire de mémoire?
Ben, c'est le plaisir du métier, ça,
wow.
Là.
C'est incroyable. Avez-vous un conseil pour moi? Je vais animer la soirée électorale demain sur les ondes de boulevard.
Restez vous-même. Ouais. La pire chose dans les médias, et c'est vrai aussi pour la politique, c'est de se penser qu'on va faire comme.
En effet.
Restons soi-même. Quand j'étais journaliste, évidemment, les grands de ce monde journalistique, comme Bernard de Rome, étaient pour moi une inspiration, mais jamais je me serais vu en faisant comme Bernard de Rome.
Devenir un Bernard de Rome.
Il faut être soi-même. Et c'est en politique, on voit ça trop souvent, des gens qui essayent de faire comme l'autre. Fais pas comme l'autre. Reste toi-même. Inspire-toi. Inspire-toi de l'un et de l'autre avec les bons éléments qui t'attirent. Mm-hmm. Mais jamais essayer d'être comme. Il faut être soi-même comme vous le faites si bien.
Merci. Une petite dernière, tiens, qui me vient en tête. Qui est votre inspiration politique?
Ah, il y en a plusieurs. Sincèrement, il y en a plusieurs. Quand je disais, moi, je n'ai pas d'idole personnelle, mais je reconnais de très grands traits, que ce soit pour les Churchill, les De Gaulle, Roosevelt, ou encore, évidemment, ici au Canada, Mulroney. Pour moi, Mulroney, ça demeure toujours le plus grand des plus grands premiers ministres canadiens de par sa stature. Il y avait toutes les qualités de toutes les réalisations qu'il a fait. Anglais, français, il pouvait être extraordinaire dans le small talk, comme on dit, aller voir les gens sur le terrain et de nous faire honneur à la Maison Blanche, à l'Élysée ou à l'ONU. Alors, et en anglais et en français, dans les deux cultures, avec une aisance tout à fait remarquable. Je me souviens d'ailleurs, une fois, il avait dit, il faisait des blagues sur John Turner et Jean Chrétien. Il disait le soir, the guy from the Main Street, now the guy from the Bay Street, and the guy from Bay Street is now the guy from the Main Street. Alors, il faisait des blagues comme quoi, tu sais, M. Turner et M. Chrétien s'étaient échangés. C'était le gars de Bay Street qui était devenu le gars de Main Street et tout ça. Mais dis-moi, de toute façon, anyway, both of them vote for me. Et Main Street et Bay Street avaient voté pour M. Mulroney. Juste Mulroney avait ce talent extraordinaire.
M. Deltel, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée d'élection demain.
Merci bien.
Et au plaisir de se parler là, au retour des élections là, à compter de mardi.
Avec grand plaisir et grand bonheur. Et n'oublions pas, il faut aller voter.
Oui, exactement. Ne l'oubliez pas. Allez voter de 9h30 à 21h30 demain. Tous les bureaux électoraux sont ouverts au Québec. Allez voter. Déjà, 7,3 millions de gens ont utilisé leur droit de vote avec le vote par anticipation. Courte pause. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. Vous écoutez l'actualité. Ne prend pas congé. Après cette pause, on parle avec le chef de l'opposition à la Ville de Québec, Claude Villeneuve. Quelle a été la place de la capitale nationale dans cette campagne électorale fédérale? On en parle avec les principales intéressées.
Une station créée pour les gens de Québec.
Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1, façon de nous écouter. La radio traditionnelle peut également nous écouter via notre application ou sur la web radio au blvd.fm. Petite note de hockey, Samuel Montembeau est absent ce soir suite à sa blessure subie vendredi. Ce sera Jacob Dobesch qui sera devant le filet. Kayden Primeau a été rappelé. Il sera le gardien de but auxiliaire. Du côté des Capitals de Washington, Logan Thompson est présentement à la période d'échauffement. Donc, ça devrait être lui qui sera d'office devant le filet des Capitals de Washington avec Charlie Lindgren, l'ex-Canadien, comme substitut. Ne manquez pas également demain notre soirée électorale à compter de 20h et ce jusqu'aux alentours de minuit, peut-être un petit peu dépassé, dépendamment de l'ordre des résultats. Émission spéciale électorale animée par moi-même sur les ondes de Boulevard 102, également du 99.5 Montréal. Les collaborateurs présents, Farnel Morisset, un petit nouveau à notre antenne, Lambert Drainville, Reg Laplanche sera présent également, Maxime Larouche sera sur les résultats dans la région de Québec, alors que le journaliste du 99.5 Montréal, Alex Laramé, fera sera la même chose du côté de Montréal. Mais maintenant, c'est le temps de parler de la capitale nationale et de sa place qu'elle a prise dans la campagne électorale fédérale avec le chef de l'opposition officielle et candidat à la mairie de Québec, le chef de Québec d'abord, M. Claude Villeneuve. M. Villeneuve, comment allez-vous en ce dimanche soir?
Ça va très bien, on se prépare pour le hockey.
Nice, oui, c'est ça. Êtes-vous fébrile à l'approche de ce match-là?
Oui, quand même. La façon que les gars sont sortis vendredi soir, ça donne le goût là.
Oui, vraiment, le Canadien est sorti très fort, très physique également, ça m'a étonné. On a une série.
Ah oui, ça se passe. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il avait mangé, mais j'espère qu'ils vont manger à ma affaire à soi.
Parlant de passion, tout le monde est passionné par le Canadien. Est-ce que pour une personne qui trempe dans la politique depuis plusieurs années, et ça à tous les niveaux, la campagne électorale fédérale vous a passionné?
Ouf! Moi, quand j'étais petit, j'avais le droit de me coucher plus tard les soirs d'élection là, pour pouvoir les regarder parce que j'aimais déjà ça enfant. Puis... Disons que cette année, je ne ferai pas veiller mes filles.
Là. Non.
Ouais. D'abord, c'est particulier. Les pôles ferment à 9h30, donc on risque, oui, de savoir à 7h c'est quoi le résultat.
Exactement.
Les îles de poulet risquent d'être rendues froides, mais je ne sais pas. Ça a été une drôle de campagne. Hein. C'était comme un bruit de fond. Les enjeux n'étaient pas chaudement discutés. C'est comme si dès le début de la campagne, on avait l'impression un peu que ça jouait d'avance. Donc,
ben, Donald Trump a pris toute la place.
Ben, c'est ça. Puis en fait, finalement, on s'attend quand même à une bonne idée du résultat lundi soir, mais finalement, c'est l'état des forces respectives. C'est plus ça là, qu'on va surveiller. Là.
Pour la capitale nationale, est-ce que ça a été une campagne qui a été positive ou négative?
Ben moi, je suis resté sur mon appétit. Je trouve qu'on avait des gros enjeux à Québec dont on aurait aimé discuter. C'est ça, c'était même pas des enjeux nationaux, c'était des enjeux supranationaux qui prenaient toute la place.
Lesquels, par exemple?
Ben là, c'est sûr que les tarifs de Donald Trump, ça a pris, oui, énormément de place. Ça, c'est normal, mais je comprends pas qu'on n'ait pas au niveau local les candidats, que ce soit M. Duclos, M. Paulus, M. Deltel, candidat du Bloc, qu'on n'ait pas eu un débat sur les enjeux locaux. Alors, on a parlé un peu du tramway. C'est vrai, le tramway était de
troisième
lien, ça s'est même rendu au débat. Mais pour ce qui est de tous les enjeux, on est resté dans des termes très généraux en parlant de logement, d'habitation, d'économie, mais les revendications spécifiques de Québec, ils ont été complètement oubliés.
Si vous aviez été Bruno Marchand, qu'est-ce que vous auriez fait de différent, justement, pour pas qu'on oublie la capitale nationale?
Bien, Régis Labeaume avait cette habitude-là de publier des listes d'épiceries.
Je me souviens de ça, la fameuse liste d'épiceries de Régis.
Il faisait des demandes. Puis là, ben, écoute, t'as pas nécessairement des réponses positives à toutes tes demandes, mais c'est que ça va forcer les candidats à se connaître. Ça va forcer le débat à avoir lieu. Par exemple, un sujet dont on parle plus du tout à Québec, c'est le raccordement des usines de filtration puis des fosses septiques là, de Lac Saint-Charles. Là, en fait, autour du Lac Saint-Charles, on parle de Sonam, de Lac de l'Âge. 2019, là, Richard Labeaume demandait 200 millions au fédéral pour cette question-là, puis là, pour la qualité de l'eau, et là, on n'en parle plus du tout. Vous savez, on en a souvent parlé, Jean-François, le centre de curling, moi, je trouve que le fédéral devrait investir là-dedans. On construit ça pour les Jeux du Canada.
Oui, puis d'autant plus qu'on a sauvé les Jeux du Canada, là, parce que le Yukon les a laissés tomber.
Ben c'est ça. Puis moi, bon, vous savez d'où ce que je viens dans la vie, là, j'ai déjà été au Parti québécois, mais si ça prend un beau drapeau du Canada devant le centre de curling pour avoir de l'argent pour être capable de se faire construire, moi, j'ai aucun problème avec
ça.
Ben
là, M. Villeneuve, vous me surprenez, parce que si ça prend un troisième lien pour un tramway, vous êtes pro-troisième lien, puis là, vous êtes prêt à avoir un drapeau du Canada, je comprends plus rien.
Non, mais sur le centre de curling, vous savez, j'ai été critique depuis le début. Je trouve que près de 40 millions pour les seuls citoyens de Québec, c'est énorme. Normalement, pour le centre de glace Impact Assurance, on a eu tiers. Municipal, provincial, fédéral. On devrait avoir une contribution des gouvernements supérieurs pour des équipements de cette ampleur-là. Donc, moi, que le maire de Québec, Bruno Marchand, n'ait même pas fait de demande au fédéral pour avoir une participation, ça nous fait deux jambes. Moi, je trouve ça, c'est le genre de choses qu'une campagne électorale est supposée servir. Et je suis convaincu que les candidats locaux de plusieurs partis, de plus d'un parti, qui auraient été très heureux de se positionner favorablement là-dessus.
Non, en effet, vous avez entièrement raison. Je veux vous parler un instant de Pierre Poilievre, parce que le maire de Québec ne l'a pas rencontré. Je comprends qu'il est en retard dans les sondages, mais quand même, moi, j'ai l'impression qu'on aurait dû faire l'effort d'avoir cette fameuse rencontre-là. C'est pas parce qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité dans plusieurs dossiers qu'il ne faut pas se parler.
Ben, moi, je trouve que c'est une faute grave. On doit parler à tous les chefs de parti. On doit les solliciter, on doit les interpeller. Durant une campagne au niveau du Québec, je me rappelle, là, en 2022, Dominique Anglade, François Legault, puis Paul Saint-Pierre-Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, étaient tous passés par l'hôtel de ville. Le maire de Québec, c'est un personnage politique important au Québec et au Canada. Moi, je trouve que ça devrait être un passage obligé pour un candidat de venir le rencontrer à sa demande. Et puis Pierre Poilievre, bon, Bruno Marchand ne s'entend pas avec lui pour le tramway. D'accord. Mais comme je vous dis, il y a plein d'autres enjeux là, sur lesquels peut-être que justement Pierre Poilievre il aurait été content.
Bien, notamment le logement. Pierre Poilievre parle énormément de logement et de favoriser justement le domaine de la construction par rapport justement à une baisse de TPS, à une abolition de TPS pour les nouvelles maisons. C'est un enjeu, il me semble, que Bruno Marchand et Pierre Poilievre pourraient avoir des atomes crochus.
Tout à fait. Puis le gouvernement fédéral a plusieurs bâtiments excédentaires à Québec qui pourraient servir à construire du logement.
Oui.
Déjà, M. Duclos s'est avancé pour les choses qui sont sur Dalhousie, d'accord, mais nous, on en avait ciblé d'autres sur Saint-Louis, sur Carleton, des édifices qui ne servent à rien, puis peut-être qu'on aurait pu amener des candidats fédéraux à se positionner là-dessus. Puis Pierre Poilievre, on dit qu'il est à la traîne dans les sondages. D'abord, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Deuxièmement, Pierre Poilievre, il est pas mort, là. Ça peut être notre chef de l'opposition à Ottawa, il peut être premier ministre après une autre élection. Qu'est-ce qu'on perd à prendre le temps de discuter avec lui d'enjeux qui sont importants pour les gens de Québec? Ça pourrait influencer son discours.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour rappel, on discute avec Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, candidat à la mairie. On parle de l'impact de la campagne électorale sur la capitale nationale. Monsieur Villeneuve, pas le choix de vous parler de Sam Ahmad. Auriez-vous aimé l'entendre sur les enjeux de la capitale nationale durant cette campagne électorale fédérale?
Bien, il a été très discret. Moi, je comprends que c'est un petit peu la stratégie de Monsieur Ahmad d'essayer de tracer sa voie vers l'hôtel de ville en se positionnant sur le moins de sujets possible ou en attendant le plus longtemps possible avant de faire campagne. Je sais qu'il se fait tirer l'oreille. Là. Peut-être qu'il y a une stratégie de son côté qui pourra commenter d'attendre que les élections fédérales soient derrière nous pour être plus présent, mais c'est parce que pendant ce temps-là, il y a des débats importants qui se passent à Québec. Sam Ahmad, qui veut être maire, il est juste pas partie prenante à ce débat-là.
Mm-hmm.
Par ailleurs, il y a des élus au conseil dont on soupçonne qu'ils vont être candidats avec Sam Ahmad. On parle de mes anciens collègues, Louis Martin et Isabelle Roy. On parle de M. Melançon, M. Mercier. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Là, présentement, on sent qu'ils sont comme eux-mêmes un petit peu à l'écart des débats, comme s'ils attendaient les consignes de leur chef. On ne peut pas tous rester en suspens là-dedans. Si Sam Ahmad veut devenir maire, ça lui est pas dû, ça lui tombera pas dans les mains. Il doit être partie prenante au débat.
Est-ce que Sam Ahmad aurait des craintes, justement, d'une sortie publique, exemple d'un Steven Melançon, d'une Isabelle Roy ou d'un Louis Martin, s'il les associe directement à son parti qui est maintenant rendu Leadership Québec, équipe Sam Ahmad, qu'il y ait une sortie publique maladroite d'un de ses candidats qui le place, justement, dans une situation problématique?
Bien, en fait, je pense que le candidat le plus susceptible d'être maladroit là-dedans, c'est M. Ahmad. on sait, bon, M. Ahmad nous en a donné des belles là, par le passé, là, on a hâte de voir. Mais en fait, c'est je crois qu'il craint surtout d'être placé en contradiction. Déjà, on l'a vu là, lors des dernières réunions du Conseil, les élus issus de Québec, qui étaient anciennement chez nous à Québec d'abord, puis les élus qui sont présentement à Priorité Québec, ils n'ont pas voté de la même façon sur plusieurs enjeux, notamment sur le tramway. Alors, est-ce qu'on craint de devoir, disons, leur régler des petites dissonances cognitives là, quand tout ce beau monde-là voudrait être candidat ensemble. Moi, je crains que... J'ai l'impression que c'est ça qu'on craint du côté de M. Ahmad.
Oui, il y a une coalition présentement qui existe au niveau du gouvernement provincial, puis disons qu'elle ne fait pas bonne figure à l'heure actuelle. Donc, sait-on jamais, peut-être qu'une coalition au niveau municipal va avoir certaines difficultés également. Parmi, là, justement, la campagne électorale, on a quand même parlé du tramway. Ça a été un sujet qui a été abordé lors du débat des chefs en français. Est-ce que vous êtes confiant si le Parti libéral du Canada venait à être élu gouvernement majoritaire, comme les sondages le proposent à l'heure actuelle, que le gouvernement finance 50 % du projet de tramway comme c'est prévu?
Bien, j'espère bien que ça va être le cas. On voit que juste au début de la campagne, le gouvernement fédéral avait haussé un peu sa contribution. Moi, je pense que c'est 40 % qu'on attend du gouvernement fédéral. Là, présentement, le compte n'y est pas. En même temps, on n'a pas le coût final du projet. Alors, il faut continuer de faire pression. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'aurais aimé que nos enjeux à Québec soient débattus davantage dans la campagne.
Oui. En effet, c'est ça a été raté du côté de la capitale nationale. On n'a pas assez fait parler de nous à cet effet-là. Il y a conseil municipal qui s'en vient mardi. Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez déjà mis à l'ordre du jour? Vous allez voir parler avec le maire Marchand?
On n'a pas de conseil mardi, puis je comprends, c'est contre-intuitif parce que ça fait 2 semaines qu'on n'en a pas eu un, mais c'est clair que c'est qu'il y a un conseil le premier, le troisième mardi.
C'est vrai, je me
trompais. Et là, c'est un mois de 5 mardis. Alors, dans ce temps-là, si je disparais une couple de jours, c'est peut-être que j'en profiter d'avoir une petite relâche imposée comme ça. Mais écoutez, j'ai quand même hâte qu'on revienne au conseil puis qu'on soit vraiment concentré sur les enjeux de Québec. De plus en plus, les réunions du conseil municipal vont être teintées par l'élection qui s'en vient. pense que la machine a comme déjà commencé à ralentir. On va adopter moins de sommaires décisionnels compliqués, puis on va plus parler des enjeux. Nous, on va continuer de parler d'économie. C'est beaucoup là-dessus que j'ai insisté depuis la rentrée d'hiver. De faire valoir là, la vision qu'on a pour Québec là, pour avoir une ville plus simple pour les citoyens.
Donc, vous venez d'alléger mon horaire également la semaine prochaine avec la soirée électorale que je vais animer demain. Je suis très heureux mardi qu'il n'y ait pas de conseil électoral, quoique je vais m'ennuyer de tous les politiciens municipaux là, en ce beau mardi.
Alors, on va vous donner des occasions de vous reprendre, ça, craignez pas.
Merci beaucoup. Pour l'équipe de Québec d'abord, est-ce qu'il y a des annonces prochainement de nouveaux candidats? Ça va vraiment aller à l'été?
On y travaille. On va annoncer des gens avant les vacances, c'est certain, mais on, comme tout le monde, on a un petit calendrier là, pour présenter tout ça aux gens et permettre aux merveilleuses personnes qui joignent à nous de briller demi le feu quand ils le pourront.
Excellent. Claude Villeneuve, merci beaucoup pour votre disponibilité en ce dimanche soir, émission spéciale sur les ondes de Boulevard 102.1 et au plaisir de se reparler rapidement.
Une très bonne soirée à tous vos auditeurs.
Merci. Passez une belle soirée en famille.
Canadien en 7.
Canadien en 7? Oh, avez-vous dit ça au début des séries?
Non, mais en fait, il y a à Toronto, ça, pour perdre en 7, il faut en avoir gagné 3.
Lâchez les livres, ça, ils ont peut-être commencé à trembler déjà depuis hier soir.
Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, Claude Villeneuve. On se reparle prochainement.
Bonne soirée à vous.
Merci. Alors, c'était Claude Villeneuve, chef de l'opposition et candidat à la mairie pour la Ville de Québec. On parlait des enjeux de la capitale nationale. Une capitale nationale qui a été oubliée, malheureusement, dans cette campagne électorale fédérale. On s'en va avec Sarah Dufour, l'excellente Sarah Dufour que j'adore, que je vais aller voir le 26 octobre prochain au Capitole de Québec. La chanson « Smile d'en face ». Et par la suite, Julie Vignola, députée sortante pour le Bloc québécois dans Beauport-Limoilou, sera avec nous en studio. Vous écoutez l'émission spéciale « L'actualité ne prend pas congé ». Fin de campagne électorale fédérale. Restez les nôtres.
Pas de congé avec Jeff Fortin.
Boulevard 102.1.
On est à la dernière portion de l'émission spéciale. L'actualité ne prend pas de congé spécial. Fin de campagne électorale fédérale. Je vous rappelle, bien évidemment, sur nos ondes demain matin, 6h à 10h, Rage Against le matin. Par la suite, Open Mic avec Yannick Marceau et Audrey Pinchon à compter 10h. Marceau reste en studio avec Pascal CV d'11h30 à 14h. Denis Gravel avec Véro et Audrey de 14h à 18h. Et après, justement, Marceau du soir et le volume au max, ce sera l'émission spéciale soirée électorale. J'ai dit volume au max, je me trompe. C'est la troisième édition du podcast avec Audrey Pinchot. Donc, avant la soirée électorale de 20h à 24h et des poussières, on va attendre la confirmation de tous les résultats avant de se lancer justement avec un petit dodo et de retour le lendemain matin, 6h pour Rage Against le matin. Petit résultat de hockey, les Blues de Saint-Louis l'ont emporté 5-1 sur les Jets de Winnipeg. Les Hurricanes de la Caroline vont prendre les devants 3-1 dans la série face aux Devils. Tour du chapeau pour Andrei Svechnikov, c'est 5-2 Hurricanes. Et le Canadien qui débute dans pas loin de 7 minutes son match, Jacob Dobesch qui sera devant le filet pour affronter Logan Thompson. J'ai le bonheur et le plaisir de recevoir Mme Julie Vignola, candidate dans Beauport-Limoilou, députée sortante pour le Bloc québécois. Madame Vignola, comment ça va?
Ça va merveilleusement bien.
Ah oui, vous avez l'air en forme en fin de campagne électorale, ouais. Comme ça. Comment vous faites pour avoir une énergie aussi rayonnante et, je vais le dire comme ça, une si grande énergie?
Bien, il y a les trucs habituels. On mange bien, on boit beaucoup d'eau, on essaie d'éviter le café. ça marche moyen, ça.
Ouais, c'est ça, ça doit être tough, ça, éviter le café.
Je le transforme en chai latte. D'ailleurs, je viens d'en finir.
Oui.
C'est plus zen. Mais prendre le temps de prendre du sommeil, mais c'est surtout l'énergie des gens. C'est extraordinaire. Oui. La campagne est magnifique. On se l'est déjà dit, je le redis. Elle est sincèrement magnifique. Les gens sont curieux. Pas juste la question habituelle de « c'est quoi tu fais pour moi? »
Oui.
Mais plus « ouais, mais finalement, un député, ça fait quoi? » Vous n'avez pas le pouvoir, mais vous avez du pouvoir. À quoi ça ressemble? À quoi ça sert, un comité?
D'autant plus dans Beauport-Limoilou, je pense, avec la course à trois qu'il y a à l'heure actuelle entre vous, M. Lavoie et M. Langlois.
Oui. C'est toujours une course à trois, comme en 2019, comme en 2021. On est toujours dans les marges d'erreur. Fait que, puis d'autant plus que les sondages, ils ne sont pas faits à Beauport-Limoilou. Ils sont faits dans la grande région de Québec, qui inclut Chaudière-Appalaches, Beauce, Lévis-Lobinière. Jean-Cartier, Portneuf, Louis-Saint-Laurent. Fait que c'est très, très, très large. Où est-ce qu'il y a un grand bassin de conservateurs? Fait que les chiffres de Beauport, le petit microcosme qu'est Beauport-Limoilou, les chiffres peuvent être surprenants le soir de la grande finale. Là.
Pourquoi les électeurs devraient voter pour vous dans Beauport-Limoilou?
Ça fait 5 ans que je travaille pour eux, que je me démène comme un diable dans l'eau bénite. Et j'ai pas peur de traverser le plancher pour aller voir soit un libéral, soit un conservateur pour parler de dossiers qu'on a en commun ou pour faire avancer un dossier. Puis il n'y a pas de... Quand on me pose une question, il peut avoir un « je le sais pas », mais il y a toujours suivi de « je vais m'arranger pour trouver ». Et quand il y a un problème, c'est pas « ah, oh, c'est irrésistible, c'est pas... on peut pas trouver la solution mm-hmm. ». C'est « on va trouver une manière pour trouver une solution ». Il y a pas d'obstacle. Puis si en bout de ligne, c'est non, ça va être franc, ça va être direct, je vais dire tout ce que je vais avoir fait.
Ça va être expliqué.
Ça va être expliqué, ça va être transparent. Je crois fondamentalement en la pédagogie politique pour faire comprendre la bibitte. Mm-hmm. Et en bout de ligne, pour diminuer le cynisme que les gens peuvent avoir. Tu sais, je te promets ça. Non, je te promets que je vais essayer. C'est ça que je te promets. Puis je vais essayer. S'il faut que je monte des mollets, je vais monte des mollets. Mais je vais essayer.
Quel est l'enjeu principal dans Beauport-Limoilou?
Hey, c'est difficile de dire un seul enjeu.
Ouais. Quelques-uns d'abord?
Quelques-uns. Il y a assurément le logement.
Oui.
Assurément. Je pense que c'est un enjeu commun partout au Québec. Parce que quand tu as des taux d'inoccupation de 0,2, 0,3, 0,4, ça veut dire que du logement, il n'y en a pas. Puis du logement qui réponde aux besoins aussi. Donc, il y a assurément le logement. La qualité de l'air revient, pas juste dans Limoilou, mais aussi dans Beauport, parce qu'il n'y a pas de bulle de verre autour de Limoilou. Là.
Non.
Le vent, les émanations vont aussi vers Beauport.
Les fameuses émanations du port.
Pas juste le port, ouais. Il y a l'incinérateur, il y a la White Birch. C'est l'odeur de la White Birch, on la sent partout.
On la sent à Beauport aussi.
C'est ça, on la sent à Beauport aussi. On la sent dans Basseville, du côté de Québec-Centre aussi. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Est-ce que ça va se faire en 2 mois? Bien non, ce n'est pas des dossiers qui se règlent en 2 mois. Ouais. Mais c'est des dossiers de longue haleine.
Sentez-vous que dans les dernières années, le gouvernement en place, le gouvernement libéral en place, n'a pas pris justement assez acte ou n'a pas pris assez au sérieux ces considérations-là?
Il a commencé à penser à peut-être éventuellement réfléchir.
On est loin dans le processus.
C'est ça, on reconnaît le genre de phrase qu'on a entendue durant les dernières années. Là. Il y a eu verbalement des mots qui ont été dits pour dire en effet on manque de logement. Mais de façon active, on n'a rien ralenti. Puis les sommes sont pas là. Il y a 30 ans de désinvestissement en logement. On pense résoudre ça en 2 ans? C'est impossible. Mm-hmm. Impossible. Donc, il va falloir avoir un plan qui est récurrent, un plan qui est clair, prévisible, puis assurer aussi en même temps que tout le monde ait son toit. Puis que quand on accueille quelqu'un, c'est pas pour le mettre dans un logement temporaire ou un logement itinérant.
Pour rappel, on est avec Julie Vignola, députée sortante du Bloc québécois dans la circonscription de Beauport-Limoilou, à nouveau candidate dans cette course à 3 qui va être très intéressante à suivre demain soir lors de la soirée électorale sur les ondes de boulevard à compter de 20h. L'appui du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, est venu quand même assez tardivement, jeudi dernier. Est-ce que ça vous a déçu au Bloc québécois?
Moi, Paul a toujours été très, très en soutien. Mm-hmm. Ses députés ont été en soutien dans la circonscription. Même Pascal est venu donner un coup de main. Pascal Paradis, c'est vrai, sont deux.
Oui, exactement. Mais j'avais compris Pascal Paradis est dans la région, lui.
C'est ça. Pascal Bérubé, Catherine Gentilcar, Joël Arsenault, ça, tous des appuis de soutien, des messages d'encouragement. Donc, et les militants sont là. Le chef qui l'a donné, fait un mot dans les dernières semaines, merci beaucoup, mais on savait qu'il était aussi derrière nous, au même titre que les militants, au même titre que ses députés. Fait que c'est juste une démonstration publique de quelque chose qu'on savait déjà.
Cet appui terrain-là était plus important que le discours du chef du Parti québécois?
Tous les appuis sont importants.
Ouais. Donc, les deux avaient une bonne importance. On le sait, le Bloc québécois ne formera jamais le gouvernement majoritaire au fédéral. Évidemment, c'est un parti qui est unique au Québec. Okay. À cet effet-là, et là, peut-être que ma question va être piégée, vous avez le droit de ne pas y répondre, mais ça serait qui la meilleure personne avec qui travailler? Mark Carney ou Pierre Poilievre?
Je vais retenir mon expression. Faut lire les sous-titres dans ma face.
Oui,
parce
oui.
Que...
Non, j'ai pris par surprise un peu, c'est bien correct.
Non, c'est juste de retenir l'expression un peu vulgaire de fille qui sort du bois. Là. Qu'est-ce qu'on aime le plus, la peste ou le choléra?
C'est comme ça que vous les voyez les deux?
que l'Ontario choisisse son... Essentiellement, c'est l'Ontario qui choisit la couleur. On s'entend.
En effet, avec le Grand Toronto, vous avez absolument raison.
Ils ont 122 députés en Ontario, 60 dans le Grand Toronto. Le Québec en Antilles a 78. Fait qu'on arrête les histoires de peur, là. C'est...
L'élection joue là.
C'est l'Ontario qui choisit la couleur. Fait que moi, je reçois des messages de gens de bel œil jusqu'à Las Vegas qui m'écrit un peu sur mon... ce qu'on appelle communément des trolls, là. Mm-hmm. Là, tu fais, bien, écoute, c'est pas à moi, il faut que tu écrives. C'est en Ontario.
C'est eux autres qui vont choisir.
C'est eux autres qui vont choisir. Laisse les citoyennes de Beauport-Limoilou.
Ouais.
Mais c'est l'Ontario qui choisit. Avec qui on préférerait collaborer? Moi, l'un ou l'autre. Si c'est bon, si le projet de loi il a du bon sens, puis qu'on peut l'améliorer en comité, parce que c'est ça le rôle d'un comité, d'amender, de modifier un projet de loi pour l'améliorer, bien, OK. Puis si c'est mauvais, c'est mauvais. Peu importe la couleur, ça a toujours été ça. C'est bon? C'est bon. C'est mauvais? C'est mauvais. Ouais. Si c'est moyen, on est d'accord avec le principe, on vote pour en deuxième lecture, on tente de modifier en comité, puis des fois, ça prend des mois pour modifier en comité jusqu'à ce que ce soit à notre goût. Puis si en bout de ligne, ça sort de là, puis c'est pas notre goût, puis ça représente pas ce que les gens nous ont dit, ben en troisième lecture, on vote contre. C'est le principe de base. On n'a pas dérogé de ça.
Et c'est là l'utilité du Bloc québécois.
Bien oui, parce que c'est là où c'est qu'on... Puis un gouvernement minoritaire, c'est ce qu'il y a de plus démocratique au monde.
Parce qu'on est obligé de faire des coalitions.
Parce qu'on... Pas les coalitions, mais on est obligé de s'asseoir à table puis de discuter ensemble.
Mm-hmm. Donc, il y a des voies de passage, des compromis qui se font à ce moment-là.
Oui. Parce que la vie au Parlement, c'est pas la période des questions.
Ça, c'est non, en effet. C'est une pièce de théâtre, dans le fond.
C'est du très mauvais vaudeville.
Oui, c'est ça. Parce vous le dites mieux que moi.
Oui, c'est du très mauvais vaudeville. C'est une très mauvaise comédie qui ne représente pas la dignité qu'on doit avoir dans les fonctions que les gens nous ont données. Des fois, il y a des bonnes questions. Il y a certains partis plus calmes que d'autres. Le nôtre, en particulier. Là, je suis là et je bouge comme si tout le monde me voyait. Le nôtre, en particulier. Ouais. Mais il faudrait que les gens, quand ils sont élus, se rappellent qu'ils représentent et qu'ils sont l'exemple pour une population. Et ils n'ont pas à se lancer de la boue. Puis
non, en effet.
À se rouler dans...
Surtout qu'on demande à nos enfants d'être respectueux, puis on demande à la société d'être respectueuse. Fait qu'en effet, ça donne pas le bon exemple.
Ce qui se passe à la Chambre des communes, la période des questions, on n'autorise pas nos enfants pendant les débats au secondaire. Je peux en parler. Et on ne l'autorise ni aux enfants, ni aux parents dans l'aréna pendant les parties de hockey.
En effet, vous avez entièrement raison.
Hello!
Je termine avec ça parce que, de toute façon, dans quelques instants, on n'aura plus d'auditeurs parce que le Canadien commence à la TV et tout le monde va être rivé devant son téléviseur. Vous en avez parlé, c'est l'Ontario qui décide la couleur du gouvernement. Ouais. Ça fait beaucoup de grogne en Alberta.
Ouais.
Croyez-vous que ce mouvement-là qui est en train de se produire également dans les provinces de l'Ouest peut donner un vent de renouveau à la souveraineté au Québec?
C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas combien de fois à la Chambre des communes, où est-ce que les libéraux, les conservateurs nous reprochaient notre position, puis on les a regardés, puis OK, ouvre-la ta constitution. Bring it on. Ils ne l'ouvrent pas. Ils ne veulent pas l'ouvrir. Est-ce que le fait que l'Alberta commence à grogner plus, parce qu'elle grognait avant...
Oui, mais là, d'autant plus dans la guerre tarifaire, là, avec ça. Daniel Smith qui s'est positionné à l'encontre de plusieurs prises de position du gouvernement libéral.
T'as la Colombie-Britannique qui a déjà eu un mouvement indépendantiste.
C'est vrai.
La Terre-Neuve aussi. Mm-hmm. On a une constitution qui est, malgré qu'elle est relativement récente, 1982, elle est archaïque par sa rigidité.
Ben, les choses évoluent rapidement.
Et les choses évoluent. Est-ce qu'il y a une possibilité pour le mouvement indépendantiste de renaître encore plus fort? Parce qu'il demeure toujours 35-40 est-ce qu'il peut gonfler encore plus fort avec tout ça? C'est possible. J'ai pas de boule de cristal. Ça ferait plaisir. On s'entend.
Oui.
Mais on verra pour le reste comment tout ça se passe. En attendant, on va s'occuper de nos dossiers.
Julie Vignola, je vous remercie infiniment pour votre présence en studio en ce dimanche soir. Je vous souhaite un excellent match du Canadien. Allez-vous regarder ça?
Et non.
Non, vous n'êtes pas une fan de hockey.
Bien, j'aime beaucoup le Canadien.
Ouais.
J'aime beaucoup ça. Mais là, ce soir, je vais plutôt faire des appels.
Dernier blitz de campagne électorale.
Le dernier blitz de campagne.
Je vous souhaite un bon succès. J'ai adoré la rencontre que vous avez avec Gérard Deltel tout à l'heure. Puis je vais en parler en ordre. Vous êtes souhaité bon succès les deux, même si vous ne faites pas partie du même parti politique. Vous êtes félicités chacun pour votre campagne électorale. Oui. Je trouve que c'est comme ça que la politique doit se faire. Donc, bravo, chapeau à vous deux de le faire de cette façon-là.
Et à Québec, qu'elle se fait généralement comme
oui,
ça,
c'est ça,
collègue.
Je sens un très grand respect justement entre les différents partis politiques à Québec et vraiment, c'est tout en votre honneur. Félicitations de le faire.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. C'est déjà tout pour nous pour l'émission spéciale. L'actualité ne prend pas congé sur les ondes de Boulevard 102.1. Demain, retour de la programmation normale avec notamment Rage Against le matin, demain matin de 6h à 10h, alors que mon collègue Max Larouche va être de retour de Montréal. Il est au Centre Bell à l'heure actuelle, le match qui débute dans quelques instants. Reg Laplanche sera ici également. Et cette belle équipe du matin se retrouve demain soir à compter de 20h pour la soirée électorale en compagnie de Farnell Morisset, du chroniqueur Lambert Drainville qui fera ses débuts sur les ondes de Boulevard 102.1. Et également, on aura notre collègue Alex Laramé à Montréal pour les résultats dans la grande région de Montréal. On sera diffusé en direct sur Boulevard 102.1 et également le 99.5 à Montréal. Bon match d'hockey! Bon dimanche soir et on se parle demain matin 6h dans Rage Against le matin. Merci d'avoir été des nôtres et à demain!